va passer à la troisième et dernière conférence de notre cycle, avec cette fois Thomas Munier, qui va nous parler du vertige logique en jeu de rôle. Voilà.
Donc j'espère que vous êtes bien assis, parce qu'on va faire exploser la réalité. En parlant de jouer le vertige logique en jeu de rôle, justement, comment on fait interagir les réalités, il y aura des effets spéciaux de malade. Mais d'abord, je tenais à vous remercier déjà des slides qui défilent. Je tenais à vous remercier d'être présent. Moi, je suis très content d'être dans le pays de tigres volants. Ça fait bien plaisir. Et donc, je me présente. Je m'appelle Thomas Munier. Je suis auteur de jeux de rôle, blogueur, podcasteur. Vous retrouverez tout sur mon blog. Alors, on va juste un peu défricher de quoi on va parler d'abord. On va commencer par voir c'est quoi le vertige logique, d'où ça me vient, à quoi ça sert. Comment j'ai procédé en fait pour développer les techniques. Ensuite, on va dérouler en fait quelques grandes familles de techniques de vertige logique, donc l'espace, le temps, le récit, la perception et enfin les possibles. On fera ensuite un survol général des techniques à travers une méthode d'analyse de jeu qui est jeu tactique, moral, esthétique ou social. Puis, une fois qu'on aura bien un bon aperçu de ce c'est quoi cette technique de vertige logique, on s'intéressera à comment concrètement on les met en place en jeu, quoi. Et puis, du coup, après, ça me permettra de savoir comment on peut faire monter ce vertige logique en puissance, pour être de plus en plus logique, ou de moins en moins d'ailleurs, ça dépend, et de plus en plus vertigineux. Donc d'abord, c'est quoi le vertige logique, hein ? Donc, j'ai mis une petite illustration très parlante, inspirée d'une œuvre d'Escher. Donc si vous regardez bien, il y a un petit problème dans cette image. Donc, le vertige logique, en fait, c'est un moment en jeu de rôle où on a plusieurs réalités qui font l'amour. Et les personnages participent à ça. Donc, il faut plusieurs réalités qui communiquent, et il faut qu'il y ait une interaction entre ces réalités et les personnages. Donc, les inspirations, en fait, d'où ça me vient, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, en fait. C'est presque aussi vieux que le jeu de rôle. Donc, par exemple, vous avez Rêve de Dragon, on a quand même énormément ça, avec justement la réalité est tordue dans tous les sens, puisqu'on est dans des rêves. Vous avez les contrées du rêve pour l'appel de Cthulhu, où les personnages sont à la fois dans la réalité, mais ils sont aussi incarnés dans les contrées du rêve, et on peut avoir des interactions entre les deux. Par exemple, je sais qu'en jeu, on utilisait un peu les contrées du rêve comme une espèce d'espace de communication télépathique entre personnages, qui étaient séparés dans l'espace et dans le temps. La méthode du docteur Chastel, où on joue des médecins en fait, psychiatres qui vont guérir un patient de ses psychoses en allant se balader dans son inconscient, en essayant de rechanger un peu l'ordre de comment les choses sont faites, mais sans trop non plus faire de dégâts. Ça ne marche pas toujours. Explo-narrateur, où en fait, on est des personnages qui sont capables de s'aventurer dans des intrigues, histoire d'y mettre un peu le dawa, donc ils peuvent aller dans le film Indiana Jones et changer l'histoire, aller dans Harry Potter, changer les trucs. Itrasby, dont Jenny nous a parlé, où là, c'est l'empire du what the fuck. Hein. Et aussi, assez récemment, Mantra, de Batronobon, qui est présent, donc allez voir un petit peu. Où là, on a du multivers, on a des personnages qui peuvent se posséder l'un l'autre, on a des bascules de réalité sans transition. Donc, les deux derniers, c'est vraiment entre guillemets la dernière génération en la matière, quoi. Alors, inspiration de film. Donc, je vais faire du name dropping en espérant qu'il y en ait un ou deux qui vous parlent. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où on s'aventure dans des souvenirs. Paprika, où c'est plutôt dans des rêves. Existence, où c'est en fait on s'aventure dans des réalités virtuelles. Inception, où on s'aventure pour le coup, à la fois dans l'inconscient de quelqu'un, mais en même temps, on fabrique aussi des réalités oniriques. Dark City, où en fait, c'est la réalité elle-même qui est façonnée par des entités un petit peu suprêmes. Et The Fountain, où on décline la même histoire, mais dans trois univers complètement différents. Donc ça, c'est des grosses inspi. Il y en a plein d'autres. Alors, pour information, cette... conférence. C'est une version condensée d'un article qui va beaucoup plus déplier tout ça. On va essayer, on a discuté avec Vivien, on va essayer de sortir sur le blog de Vivien, un conte et histoire à vivre. Donc j'espère dans le mois qui suit, quoi. Et donc des petits textes, des petites références. Vous avez un podcast Outsider sur onirisme, drogue, réalité virtuelle. C'est un podcast auquel j'ai participé, qui date de 2 ans. Donc là, il donne un peu les prémices des réflexions. On fait un gros état de l'art. Eugénie, tu as fait une série Jouer Mindfuck, parce que toi, tu as fait du vertige logique à ma table. Tu en as fait à d'autres, à Itrasby notamment. Tu donnes ton expérience de joueuse. J'ai fait un article avec Jérôme Larré et Coralie David pour le recueil Mener des parties de jeux de rôle. On parle des scènes spéciales et on aborde notamment les scènes de flashback, les scènes de flash-forward, d'attente, de rêve. Donc c'est un peu les prémices de ma réflexion. Il date d'un an et demi, la rédaction. Et puis une soirée littérature, musique et jeux de rôle. Ça commence par un concert. Donc vraiment, on vous offre des trucs et je brosse des premières techniques. Alors, à quoi ça sert, en fait ? Déjà, il ne faut pas toujours chercher l'identité dans les choses. Après, on fait du vertige logique parce que c'est classe. Et aussi parce que ça met en œuvre l'ironie dramatique, c'est-à-dire qu'on joue sur la différence entre ce que le personnage sait et ce que la joueuse sait, ou tous les procédés de mise en abîme. C'est une façon de mettre en jeu le méta, hein, dont je renverrai à Vivien. En jeu de rôle, des fois, on a des cinématiques, c'est-à-dire que le maître de jeu ou même une autre joueuse a prévu une scène, mais qui n'est pas interactive. Et en fait, ça permet de retransformer ces cinématiques en moments de jeu. Ça permet de dérouler en une scène entière une action ou une décision, une pensée qui aurait juste pris une phrase. Ça permet de donner à voir le monde intérieur des personnages. Ça fait aussi, si vous avez des jeux avec des multivers, avec des domaines astro, des domaines du rêve, ce que vous voulez, ça permet de vraiment les exploiter à fond en faisant vraiment dialoguer ces dimensions. Et enfin, ça permet de faire un jeu où il y ait de l'étrangeté, mais que ce soit une étrangeté qui soit jouable, actionnable. Et pas uniquement un truc qu'on subit quand on est joueuse. Alors, test des techniques. En fait, j'ai mis du vertige logique dans à peu près toutes mes parties pendant 2 ans. Et donc, toutes les techniques que je veux présenter, c'est des techniques qui ont été testées voilà, dans mes séances. Et toutes les séances dont je vais parler, attention, je vais faire per castor. Je vous préviens. Je vais raconter des histoires, je vais raconter des parties. Je sais que c'est chiant, que ça se fait pas, mais je vais le faire. Alors, important, je pose un dé ici sur la table. L'espace, quand on met du vertige logique dans l'espace, c'est quoi ? Je reviens, vous allez voir. Hop. En fait, je suis allé dans un monde parallèle et j'ai agressé mon alter ego qui est en train de faire une conférence à côté et je lui ai volé son dé en fait. Voilà. Vous avez prévenu, il y avait des essais spéciaux. Alors là, l'idée, c'est comment en fait, on considère que les mondes parallèles, les dimensions, ou les rêves, ou les différentes réalités, ce sont des espaces. On va travailler sur comment ils communiquent et comment on peut passer de l'un à l'autre. Inversion du contenant et du contenu, par exemple, c'est on va prendre un objet, un lieu, ou enfin quelque chose qui est plus grand qu'une réalité qui, elle, par définition, est infinie. Et en fait, cet objet va devenir finalement un peu synonyme. Par exemple, dans le placard au cafard, c'est un personnage qui est dans un mauvais souvenir où elle se fait en fait, elle est témoin d'une scène, elle est enfant, elle est témoin d'une scène familiale assez dure. Et en fait, elle a tellement peur qu'elle se réfugie dans un placard tout étroit qui est rempli de cafards. Et en fait, elle se rend compte que les parois intérieures du placard, elles s'ouvrent, et en fait, c'est des tunnels qui ouvrent vers son inconscient. Donc voilà, ça c'est première petite originalité dans la communication entre deux espaces. On peut utiliser un lieu comme sas entre les mondes. Par exemple, dans moins 40, on a des personnages, donc ils sont dans la réalité classique, ils rentrent dans une hutte, ils font un rituel chamanique, avec de la fumée, tout ça. Et quand la fumée se dissipe, ils sortent de la hutte. Sauf que dehors, c'est plus la réalité, c'est la terre creuse. C'est un monde intérieur et chamanique. Alors, comment on peut faire communiquer autrement les mondes ? on peut aussi les juxtaposer. Alors la différence, c'est que je vous ai dit qu'une réalité, par définition, c'est infini. Mais en fait, l'infinité, c'est quelque chose qui se découpe. Considérez qu'une réalité, c'est un fruit, vous pouvez la couper en deux. Vous avez une moitié de fruit, prenez une autre réalité, bim, vous la découpez. J'aurais dû amener des pommes, je sais pas, une bâchette. Et en fait, vous recollez comme ça deux moitiés de fruits différents. Et donc, juste la solution du monde, par exemple, dans N'ayez pas peur, il y a un personnage qui enquête sur des crimes, il va se rendre chez un suspect qui tient un garage. Et en fait, ils sont dans son bureau, qui est un bureau vitré, depuis lequel on voit le garage avec les voitures, tout ça, quoi. Et en fait, au fur et à mesure qu'il interroge le suspect, la situation se trouble, et à un moment, en un clignement d'œil, l'enquêtrice en fait, voit que derrière la vitre, elle ne voit plus le garage, mais elle voit la forêt où ont lieu les crimes sur lesquels elle enquête. Alors, une fois qu'on sait faire communiquer des mondes, bah, c'est quand même bien de se donner un vrai challenge et de faire des mondes imbriqués les uns dans les autres. Dans Le Secret du Dr Chastel, en fait, on a des personnages qui sont aventurés dans l'inconscient de leur maître pour essayer de le sauver du coma. Et en fait, ils ne trouvent pas leur maître, mais ils trouvent son alter ego qui lui-même est dans le coma. Alors déjà, l'inconscient, il est chelou, hein, évidemment. Et du coup, ils disent, bon, bah attends, on va rentrer dans l'inconscient de notre maître qui est de son alter ego, tout ça. Et en fait, ils vont dans un deuxième monde, dans un deuxième sous-monde, qui est encore de plus en plus chelou, ils ne le trouvent toujours pas. Alors ils descendent comme ça, de réalité en réalité. Puis, ils disent, non, voilà, on allait trop loin, on remonte. Et en fait, ils n'ont toujours pas trouvé, ils reviennent dans la réalité, puis ils disent, attends, et si on essayait de remonter encore plus loin? Et là, ça finit mal. La bascule des réalités, c'est, pour le coup, c'est pas les personnages qui changent de réalité, c'est la réalité qui change autour des personnages. Donc, dans Cuisine aux orgones, Green Void et Le Château des Possibles, alors pourquoi c'est le contenu du titre est aussi long? C'est parce qu'en fait, c'est une séance où j'ai utilisé trois scénarios avec trois univers de jeu complètement différents et qu'on a mixé en une seule intrigue. Donc au début, l'intrigue se passe dans un monde asiatique cyberpunk. Et à un moment, les personnages franchissent un rideau. Quand ils passent de l'autre côté, c'est toujours la même intrigue, c'est avec les mêmes personnages, sauf qu'ils sont dans une espèce de Space Hulk spatial, insectoïde et tout. Ils sont 10 000 ans dans le futur, ça n'a plus rien à voir. Et pour montrer à quel point ça a basculé, à un moment, on fait jouer un flashback d'une scène qui s'est passée entre deux personnages. Donc on pourrait se dire, bah, le flashback, c'est retour dans le monde asiatique cyberpunk, mais non, en fait, le flashback, il est dans ce monde Space Hulk insectoïde. Parce que la réalité, elle a changé, mais dans toutes les dimensions du temps, quoi. Ça, c'est la bascule. La réalité augmentée, en fait, c'est que finalement, la deuxième réalité, c'est plus qu'un moignon, un parasite, qui est vaguement incrusté dans la réalité première. Dans Rouge 5, on a un personnage qui souffre de rage de dents et il n'a pas les moyens de se soigner, donc la rage de dents empire sans qu'il puisse rien y faire. Et on voit apparaître un petit bonhomme à côté de lui, c'est le bonhomme douleur. Au début, il est grand comme ça. Et puis plus la rage de dents augmente, plus le bonhomme douleur devient immense et il finit par péter les arbres autour de lui. Et la seule façon de le vaincre, de le terrasser, ça a été d'arracher la dent du perso. Donc ça... Alors le temps, comment ça fonctionne le temps? Je vais vous montrer, c'est très simple. Je vais remonter dans le temps. Hop, je descends d'une slide. Je reviens. En fait, j'ai volé le dé à mon moi du passé. Ah, je l'avais dit, hein, magie, effets spéciaux, gadgets, vous aurez droit à tout, quoi. En fait, concrètement, comment ça se passe? Là, je vous ai expliqué l'espace. Comment on fait du vertige logique avec le temps? C'est tout simple, on considère que le temps, le passé, présent, futur, ce sont des espaces aussi. Tout simplement. Alors, les flashbacks dynamiques, c'est quoi? Quand on joue un flashback, on peut avoir envie, en fait, d'en faire une cinématique, dans le sens où c'est le meneur de jeu, il va dire, bon, bah voilà, dans le passé, il s'est passé ça, quoi. On peut aussi en faire quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que ce soit un vrai moment de jeu d'interaction entre PJ, joueuse, ou entre joueuses elles-mêmes. Donc, par exemple, dans Odyssea, il y a un moment où les PJ doivent sacrifier une personne qui leur est chère aux dieux pour pouvoir faire démarrer le bateau. Et donc, il y a le joueur d'Achille qui dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, je vais sacrifier l'enfant que j'ai eu avec ma maîtresse Briseis. Moi, en tant que MJ, je vois venir, attends, cet enfant, tu viens juste de l'inventer. Donc, moi, j'ai envie que ça ait de l'impact, donc on va faire un flashback. On va jouer la naissance de l'enfant. Donc, tu es auprès de ta maîtresse Briseis. Et en fait, elle te demande quel avenir tu prévois pour ce gamin. Et sauf que je dis, toi, en tant que joueur, tu sais ce qui va se passer, mais le personnage aussi le sait. Ironie dramatique, mais c'est même pas ça en fait, c'est que du coup l'ironie dramatique elle est remise aussi entre les mains du personnage. Et là on a droit à un moment poignant, où, en fait le Achille du passé il dit des trucs logiques de père, sauf que le Achille du présent qui va en fait qui a possédé le Achille du passé, c'est vraiment c'est la possession du personnage par lui-même quoi, ben, lui il est déchiré en fait parce qu'il est en train de dire, sachant que derrière il va sacrifier son gamin quoi. Donc les souvenirs interactifs, ça va un peu plus loin qu'on permet à la joueuse de continuer à interpréter son personnage pendant le souvenir. C'est qu'en plus, les autres, ceux qui sont restés dans le présent, ils peuvent communiquer avec ceux qui sont dans le passé. Donc dans la mémoire et la peau, on a deux personnages qui sont en train de faire un bivouac et il y a quelqu'un qui vient les voir et la discussion tourne court et en fait, il tue cette personne. Sauf qu'il y a un troisième personnage qui, lui, est resté dans le présent, en fait. Les deux autres sont en train de lui raconter ce qui s'est passé. Et en fait, il se penche comme ça sur le souvenir. Il fait, mais attendez, ce mec que vous venez de buter, c'est mon père, quoi. Ils n'ont pas fait description physique, mais lui, il l'a vu, en fait. En observant physique, il reconnaît son père. Donc, première interaction. Deuxième interaction, il leur fait, ok, bon, bah, tant pis, vous l'avez tué, je ne peux pas défaire ce qui a été fait. Mais s'il vous plaît, au moins, donnez-lui une sépulture décente. Et donc, ils l'écoutent et en fait, ils vont l'enterrer dans un lac gelé. Alors, on peut se balader dans le passé, mais du coup, si on peut s'en balader, on peut aussi l'espionner tranquillement, tu vois, avec un petit jet de furtivité qui va bien. Donc, sauf que quand on regarde dans l'abysse peut nous regarder. Dans Gurnat des Gobelins, on a une sorcière qui va enquêter sur un crime et utilise un sort de divination qui lui permet de se rendre dans le passé au moment du crime. Donc elle y va comme ça, elle essaie de se planquer, et donc elle voit l'assassin en action. Elle se rend compte que l'assassin, eh ben, c'est un autre personnage, c'est un autre membre de la team. Et cet autre personnage, ben, en tant qu'ami, je lui dis, bah écoute, fais un jet de perception. Bah écoute, je l'ai réussi. Bah tu viens de la voir, la sorcière planquée derrière un tonneau, elle a tout vu, quoi. Elle sait que tu sais que... Ben, voilà. Vous avez vu l'idée, quoi. Hop. Alors, puisqu'on peut faire des flashbacks à un moment de jeu, bah, il en est de même pour les flash-forward. Flash-forward dynamique, c'est qu'on se projette dans le futur, mais tu continues à jouer ton personnage dans ce futur-là. Donc, dans les derniers jours de Pompéi, on a un personnage qui sait qu'il va mourir. Et il doit prendre une décision importante avant de mourir. C'est, son assistante, qui est médecin, son assistante dit, ah, tu sais, il y a cette maladie horrible qui touche les gens, et moi j'ai trouvé, qu'on pense incurable, et moi j'ai trouvé un système pour la guérir. En fait, il faut amputer les parties malades. Et il ne sent pas trop, quoi. Et en fait, on joue un flash forward. Imaginons que tu aies survécu, et que du coup, ça se passe 20 ans après, et on voit comment ce que ça a donné la technique. En fait, il découvre dans sa chambre que lui et son assistante, ils sont riches, mais que la méthode des mutilations, en fait, ça fait que retarder le mal, et ça guérit rien, c'est juste un truc dégueulasse, quoi. Et donc, il revient dans le présent, maintenant qu'il a su ça, quoi. Or, ça s'est passé, il y a une vraie interaction, c'est-à-dire qu'il a posé des questions. Il faut savoir comment ça se passait exactement, quoi. Et du coup, il tue la nana, en fait. Que jamais elle utilise ces méthodes-là sur des patients. Bah, soyons fous, puisqu'on fait un flash-forward dynamique, autant en faire des flash-forward en cascade. Alors là où c'est vertigineux, c'est que finalement, c'est très très proche d'une façon de jouer dans l'ordre chronologique normal, le flash-forward en cascade. Je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être plus clair. Dans Orchidée, en fait, on a un personnage comme ça qui est capable de se projeter dans le futur, de tester des scénarios. Et donc, on joue comme ça. Et puis donc, il y a un moment, il y a un choix à faire, et donc la joueuse se projette dans le futur où elle a fait tel choix. Et elle voit les conséquences. Alors, il y a des conséquences cool, il y a des conséquences beaucoup plus graves, quoi. Il y a du pour et du contre dans ce qu'elle a fait. Et là, je me dis, mais non, ok, j'ai vu les conséquences de mes actes, mais en connaissance de cause, je te confirme que je fais bien ça. Je fais, ok, bah très bien, du coup, en fait, on fait directement une ellipse, on passe après le flash-forward, donc considéré qu'on l'a validé comme étant un moment de jeu. Et après, on fait rejouer un autre flash-forward, et ainsi de suite. On a fait une partie entière, comme ça, où c'était que des sauts de puce dans le futur. Et à chaque fois, elle est restée droit dans ses bottes, elle acceptait les conséquences, on n'est jamais revenu en arrière, mais on aurait pu. Alors, puisque autant faire mumuse avec le temps, des fois, quand on fait trop mumuse, on casse son jouet, quoi. Donc là, on va parler de temps suspendu. Et on a presque envie de se dire que c'est le non-jeu par excellence, quoi. Que s'il n'y a pas d'avancée chronologique, on ne joue pas. Mais c'est inexact. Parce qu'en fait, quand le temps est arrêté, vous pouvez vous concentrer sur la description de ce qui se passe. Et puis, si vous permettez quelques pirouettes narratives ou un peu de fantastique, un peu de télépathie entre les personnages, les personnages peuvent commenter ce qui se passe, voire même dialoguer entre eux. Donc, dans la partie duel, je cafte pas, il y avait des personnes qui étaient présentes, mais je ne suis pas une masse. Dans la partie duel, on a rejoué ce tableau célèbre de Goya qui s'appelle 13 de Mayo. Vous voyez des soldats napoléoniens qui exécutent des résistants espagnols. Et en fait, on a joué la scène, on a décrit tout ce qui se passait et ce qui se laissait deviner en fait en même temps, quoi, la dynamique que ça impliquait. Et en fait, nos personnages faisaient partie des soldats, en fait. Et on a joué une espèce de duel de regard entre eux, où ils étaient là à se demander si vraiment ils devaient faire ça, s'ils devaient faire feu, si c'était juste, légitime. Et donc ça a donné lieu à une scène assez intense. Alors j'ai complètement détraqué la machine, on peut aussi complètement jouer avec des décalages, c'est-à-dire que le personnage peut très bien progresser dans le temps avec une vitesse différente que son environnement. Donc dans la cuisine du cauchemar, on a un jeune apprenti cuistot qui doit réaliser un plat de chef en une demi-heure. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend de la chronodrogue. Et donc il se met à vivre dans sa tête 30 ans de sa vie, où il reprend le restaurant, où il apprend des techniques, il en profite pour épouser la femme de sa vie, tout ça, machin. Et en même temps qu'il est comme ça brainfucké, qu'il est en train de vivre 30 ans hyper intense, et ben il est en train de cuisiner une bouchée à la reine à toute vitesse, et en fait il réinvestit 30 ans d'expérience virtuelle dans son plat. Alors, on va changer de dimension, on va parler du récit. Donc là, on commence à être vraiment méta. Je vous raconte l'histoire d'un mec qui est en train de faire une conférence. Donc là, en fait, je suis en train d'imaginer une phylactère, je crée une bulle de récit. En fait, cette bulle de récit, je peux rentrer dedans. Et je reviens, j'en ai profité pour piquer un dé au conférencier qui est dans la bulle. Donc comment on navigue dans ces bulles de récit? Il y a l'idée qu'on va mélanger le récit et le réel. Vous allez voir des gros effets de mise en abîme. Et qu'on va aussi en profiter pour mélanger le passé et le présent. Alors je pense qu'il faut l'exemple pour que ce soit clair. Alors, je vous préviens, c'est à la fois, je pense, l'exemple le plus mindfuck de la conférence et aussi celui le plus gore. Donc, s'il y a des enfants, ils peuvent sortir. Donc, ça s'appelle l'enfer de Dante. Il y a le pape Borgia, sa vieille gouvernante vient le voir et elle fait « Je veux t'acheter une place au paradis ». Le pape fait pas de problème, parce qu'il en fait commerce. Sauf que il demande en fait en paiement « Tu dois me raconter ton souvenir le plus honteux, c'est ça la monnaie pour avoir une place au paradis ». Alors, il cache un truc à la gouvernante, c'est qu'en fait, le pape lui-même n'a pas le pouvoir direct d'accorder des places au paradis. En fait, il bosse avec un démon qui s'occupe de ça. En échange, le démon, il va prendre la vie de la gouvernante. Ouais, elle va mourir au paradis direct, ça paraît assez réglo, quoi. Et donc, la vieille gouvernante lui dit je te raconte mon souvenir le plus honteux. Sauf qu'elle ne lui raconte pas comme ça. Elle le prend par la main, elle fait « Suis-moi, on y va. On y va dans mon souvenir. » Et donc elle l'entraîne, en fait, le pape reconnaît la villa où il était jeune. Et en fait, la gouvernante l'entraîne dans sa propre chambre de lui-même étant jeune, quoi. Et il découvre la jeune gouvernante qui est planquée, en fait, derrière les rideaux en train d'espionner. Et en fait, la vieille gouvernante invite le vieux pape, à prendre place aussi derrière les rideaux. Puis en fait, du coup, ils sont trois à espionner ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la chambre ? Alors, il y a Lucrèce Borgia, donc la fille du pape, qui est allongée sur le lit et qui s'est déguisée, en fait, pour ressembler à une des maîtresses du pape. Et en fait, la gouvernante lui explique, ce soir-là, en fait, vous avez couvert votre propre fille parce que vous pensiez que c'était une autre. Et je vais vous montrer comment ça s'est passé. Et en fait, elle déshabille le vieux pape et lui dit, allez-y, quoi, reconstituez la scène. Et donc, le vieux pape, en fait, recrée le crime, mais cette fois en pure connaissance de cause, et pendant qu'il est en train de besogner sa fille, eh bien, ce qu'il voit, en fait, à travers les rideaux, il voit le démon qui est derrière la vieille gouvernante et qui l'étrangle, prenant son dû, en fait. Ça va, c'était clair? Je pense que c'est vraiment le truc le fouillis de toute la conf. Alors, aventure en cascade, l'idée, c'est que je pense à vous avoir démontré que le récit, c'était un espace qu'on pouvait investir, on pouvait jouer dedans. Mais du coup, pourquoi pas jouer un récit dans un récit dans un récit. Donc, dans Si par une nuit d'hiver un voyageur, ça commence, on joue une aventure classique. Et à un moment de l'aventure, on a convenu que un des personnages va se mettre à raconter une histoire. Alors, dans cette histoire, on ne nomme personne parce qu'on veut garder le flou pour savoir est-ce que cette histoire, elle est réelle ou inventée. Est-ce que les personnages de cette histoire, c'est les mêmes que les personnages de la réalité ou est-ce que c'est d'autres? Et donc, on commence à jouer cette aventure. Et à un moment de ce récit, on le joue comme une aventure. C'est-à-dire que chacun reprend une fiche de personnage et joue ça. Et à un moment, en fait, il y a un autre personnage qui nous a raconté une autre histoire. On joue dedans. Et il y a un moment, en fait, donc quelqu'un est en train de raconter une histoire. Et il y a un autre personnage qui se penche, en fait, sur l'histoire pour voir ce qui est en train de se passer. Et en fait, par inadvertance, il se penche tellement qu'il tombe dedans. En fait, il bascule dans le récit inférieur en devenant lui-même un des personnages de ce récit. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Enfin, si quelqu'un vous raconte une histoire, ne vous penchez pas trop, parce que vous risquez de tomber dedans. Alors, la perception. Finalement, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une seule réalité, mais que cette réalité, elle n'est pas comme vous croyez, quoi. Peut-être qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout le truc aussi délirant et tout. Et ça se trouve, en fait, il n'y a jamais eu de monde parallèle où je vous ai menti, en fait. Il n'y a toujours eu qu'un monde et j'ai jamais eu qu'un dé, quoi. Ou alors peut-être qu'en fait, on est en enfer, vous vous rendez pas compte, quoi. Vous croyez que vous êtes bien au chaud dans votre conférence, mais en fait, le monde autour de vous n'est qu'un mensonge. Alors, le jeu en solipsisme, c'est donc où justement ces perceptions. On estime en fait que les perceptions que le personnage a à la réalité, en fait, c'est son monde. Et que chaque personnage, il a un monde différent. Et ces mondes-là, en fait, ils peuvent justement être très différents, très contradictoires et pourtant cohabiter. Dans la succession de Chamanours, on a un personnage, le Chamanours, justement, qui va voir une petite vieille et qui lui dit « Je sais que tu es possédé par l'esprit mauvais, je vais t'exorciser. » Et en fait, il y a un joueur qui joue l'esprit mauvais à côté, il fait « Non, je n'ai pas possédé cette pauvre vieille. Enfin, foulue la paix, je ne suis pas dans elle, quoi. » Puis Chamanours lui répond, le joueur Chamanours lui répond « Je m'en fous de ce que tu penses. Moi, je suis persuadé que cette petite vieille est possédée. Donc tu peux raconter ce que tu veux en tant que joueur, je ne t'écoute pas, je fais mon exorcisme. » Alors, c'est pas un refus de jeu, hein. On joue avec ce refus, plutôt. Percer le voile de la réalité, c'est différent. C'est-à-dire que si on veut, ce que vous raconte le MJ, en fait, il vous ment tout le temps. Il ne faut pas le croire. Parce que le vrai monde, il n'est pas comme il est en train de raconter. C'est-à-dire que votre personnage ne peut pas se fier à ses sens. Donc, soit vous avez essayé de débusquer la réalité en essayant de lire le sous-texte, soit vous allez dépenser des jokers pour, à un moment, percer le voile. Donc dans l'Éden, il y a un moment, les personnages démasquent, il y avait une figurante avec eux, ils se rendent compte que c'est une traîtresse, enfin ils pensent que c'est une traîtresse, il y a un des personnages. Il défonce le crâne qu'une batte de baseball, et puis il y en a un autre qui fait « Attends, j'ai mon joker quand même pour voir à travers la réalité, je vais quand même vérifier si c'est pas une traîtresse ou pas. » Et donc il se met à lui parler, il fait « Est-ce que t'es vraiment une traîtresse ?» En fait, là, à ce moment, le temps s'arrête, on passe en ralenti, et l'autre derrière est en train de la défoncer, donc en fait, elle est déjà à moitié morte. Et en fait, il voit les choses telles qu'elles sont vraiment, Et en fait, la nana lui dit, oui, je suis une traîtresse, en fait, on a dit qu'on pouvait vous héberger avec mes amis, mais c'est pas vrai, en fait, on va vous faire subir des trucs atroces. C'est juste une évolution du jet de perception, en fait, hein. Des réalités mensongères. Là, cette fois-ci, on a plusieurs réalités, mais c'est pareil, elles sont toutes discutables. Donc, dans la méthode du Dr House, on a des personnages qui enquêtent sur le passé d'un patient. Et en fait, du coup, ils demandent d'avoir accès à sa mémoire, donc ils vont dans sa mémoire. Ils enquêtent dessus, mais il y a deux problèmes. C'est que le patient, en fait, c'est un menteur, donc il a trafiqué sa mémoire. Donc, en fait, les souvenirs qu'ils explorent, ils sont un peu cheatés. Et en plus de ça, les personnages ne peuvent pas s'empêcher de foutre le dawa, c'est-à-dire d'interagir, enfin d'interagir avec le souvenir, ce qui font qu'ils changent. Ils changent le souvenir en fait en interagissant avec. Alors, puisque toutes les réalités sont fausses, puisque tout est simulation, on va se dire, mais elle est où la réalité? Et donc, on va se mettre à la chercher, à aller de réalité en réalité, jusqu'à trouver un truc qui est bien solide, quoi. Et donc dans Replica, c'est exactement ce que font les personnages, parce que c'est un monde de réalité virtuelle, imbriqué les unes dans les autres. Et en fait, au bout d'un moment, au terme de leur voyage, ils sont obligés de déclarer forfait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé la réalité, et peut-être même qu'il n'y en a plus. En fait, il n'y a plus de réalité de base, quoi, il n'y a plus que des simulations. Les réalités aussi, elles peuvent être intimes. Donc c'est... le monde onirique d'un personnage, ça peut être son enclave mentale, son palais mental, aussi où il va stocker son palais de mémoire, ça peut être son inconscient. Et donc par exemple dans Cardbox, on a une méchante en fait qui capture les personnages dans son inconscient. Et là du coup il se retrouve dans un monde qui est entièrement dominé par les névroses de la méchante et où ils sont assez en position de faiblesse, quoi. Elle le fait parce que les affronter dans la réalité, c'était plus difficile. Donc là, elle les amène sur son terrain. Alors, les possibles. En fait, l'idée, c'est que on va justement dialoguer avec des vies possibles qui auraient pu arriver. On va en fait les paramétrer, comme fait le petit bonhomme. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais changer ma place en fait avec moi d'une autre vie, quoi. Voilà, et je le trouve. J'ai ramené son dé. Donc, premièrement, il y a les vies parallèles, tout simplement. C'est ce que s'appelle les uchronies intimes, c'est ce qu'on appelle les SI. Alors, en jeu de rôle, on connaît bien les uchronies, mais où c'est l'univers en fait qui slide. On change un paramètre de notre histoire et ça change tout. Là, ce qu'on change, c'est un paramètre de l'histoire d'un personnage. Et donc, par exemple, dans la photographie, il y a deux personnages. Il y en a un qui sont à la quête d'un trésor. Et en fait, on décide de jouer une scène où ils auraient trouvé ce trésor. C'est pas un flash forward, c'est vraiment un présent décalé. Où c'est leur passé qu'on a changé. Il y a un moment, ils avaient le trésor sous la main, puis ils l'ont laissé filer. Et en fait, ils l'ont pas laissé filer. Et ce qui se passe, c'est que l'un des deux est devenu en fait une sorte d'antiquaire qui est assis sur son tas d'or entre guillemets, et puis qui en profite pour racketter tout le monde. Et puis l'autre, dans la foulée, il a sauvé un gamin d'une maladie, mais du coup, il a chopé la maladie à sa place, donc il expérimente ce que c'est d'avoir la maladie de ce gamin. Et puis, il en profite au passage pour enquêter, parce qu'il est amoureux d'une nana, et donc il va voir dans cette vie parallèle comment ça s'est passé avec elle, tu vois, un peu pour jauger si elle aurait des sentiments pour lui ou pas, quoi. Alors là, dans le premier exemple, je vais montrer, c'est qu'en fait, on possède notre alter ego dans cette vie parallèle. Ouais, je suis un peu méchant avec la caméra parce que j'arrête pas de bouger. Les collisions de vie parallèle, en fait, notre alter ego, on ne peut pas le posséder parce qu'il est trop solide. Et donc, mais du coup, on peut carrément le rencontrer, on peut aller chez lui, lui rendre visite, tout ça. Dans Venise noire, Venise blanche, il y a deux Venises parallèles. Une qui est noble et belle, et une autre qui est décadente et corrompue. Et en fait, il y a six joueuses, trois qui jouent dans la Venise blanche avec des personnages un peu à cette image-là, très, très noble, mais avec un petit côté pourri caché. Et les trois autres joueuses qui jouent leur alter ego dans l'autre réalité, où ils sont corrompus, tout ça. Et en fait, on joue la première scène où ils se rencontrent tous les six, et il y a une espèce de coup de foudre amoureux à six, et du coup, ils vont aller s'aimer, s'entretuer, passer d'une Venise à l'autre, tout ça. Du coup, on peut faire de l'autosexualité, c'est quand même plutôt cool. Les répétitions, c'est... On va mettre son petit doigt dans une vie parallèle, on va jauger la température, puis on va aller dans une autre, et on va faire plein de pas chassés. Et donc, dans Hostage Simulator, c'est une partie où, finalement, on a joué une seule scène plusieurs fois, où ça s'est passé plein de fois différentes. Au début, ça commence à une prise d'otage, les personnages sont des victimes. Et puis, on recommence, cette fois-ci, il y en a un qui est complice avec les preneurs d'otages. On recommence, où cette fois-ci, ils se rebiffent contre les preneurs d'otages, ils arrivent à reprendre, et ainsi de suite. Et puis, à un moment, on ne sait plus tellement ce qui s'est vraiment passé, quoi. Alors, on a parlé de possible, j'aimerais aussi vous parler d'impossible. C'est le agir sans agir, c'est qu'on a des personnes qui sont dans des situations de handicap importantes ou qui souffrent du locking syndrome. Du coup, ils sont incapables d'agir de façon conventionnelle avec leur environnement. Voilà, j'ai 6 minutes de retard, c'est normal. Et donc, en fait, la seule façon qu'ils vont pouvoir interagir avec leur environnement, c'est par des scènes de vertige logique. Alors, je m'explique par cet exemple. Dans Les Énervés de Jumièges, on a deux personnages qui sont privés de leurs nerfs, qui sont incapables de parler, de faire quoi que ce soit, sont laissés à dériver sur une barque. Et en fait, leur seule façon de communiquer avec les figurants, ça va être par télépathie avec eux, ça va être à leur faire explorer des souvenirs à eux, ils vont revivre dans le passé, ils vont profiter pour redialoguer avec des figurants et tout. Et toute la partie se fait comme ça, où en fait... Ils arrivent à agir de plein de façons, mais uniquement par des scènes de vertige logique. On peut aussi jouer une métaphore. Quelque chose qui n'était qu'une simple image va devenir une scène entière. Donc, dans le convent de Prague, on a un alchimiste qui, pour gagner du pouvoir, doit renoncer à l'amour qu'il a pour son jeune enfant. Et pour ça, en fait, il y a une opération, on va lui découper un morceau de cœur qui correspond à cet amour. Pour appuyer ça, parce que cet enfant, on ne connaît encore pas beaucoup leur relation, on ne la connaît pas, c'est tout neuf, on décide de jouer 20 ans en fait, d'une vie possible où il a pas fait ce sacrifice-là, il a élevé son enfant, il s'est occupé de lui, il lui a appris tout ce qu'il savait, et 20 ans plus tard, on les voit, en fait, ils sont à l'étude ensemble, avec un beau moment de complicité, et en fait, il y a des ciseaux géants qui se mettent à découper la pièce et qui les séparent tous les deux. Et à ce moment-là, le fils crie « Non, comment, rejoins-moi, tu peux encore renoncer. » Et donc ça magnifie le choix que doit faire le personnage. Alors, j'ai essayé de vous donner plein de techniques un peu séparées. Là, on va essayer d'avoir un aperçu global par une façon conceptuelle de découper le jeu de rôle, bon, comme une autre, hein. C'est le jeu, moi je distingue quatre formes de jeu, c'est le jeu tactique, le jeu moral, le jeu esthétique et le jeu social. Et on va voir comment le vertige logique est intéressant dans chacune de ces formes de jeu. Dans le jeu tactique, l'idée c'est que vos personnages ils doivent résoudre des défis un peu compliqués, et en plus on va encore compliquer la donne, en fait en les faisant évoluer dans un environnement chaotique. Alors soit on garde une part de chaos pour qu'il y ait un peu de challenge, soit on dit c'est un chaos, mais en fait pas tant que ça, c'est juste que le monde a des propriétés bizarres et vous allez devoir comprendre comment il fonctionne. En Carnage 4, on a des personnages qui sont bloqués au pied d'une église, dans l'église il y a un massacre, ils ont envie de fuir en fait, de sortir de la grande place et aller ailleurs, sauf qu'en fait quand ils tournent la tête, eh bien, il y a quatre parvis d'église. Et donc, ils sont dans un piège dimensionnel, en fait, où il est en train de se passer la même scène dans toutes les églises. Donc, leur seul échappatoire, c'est d'essayer de rentrer dans les églises et de trouver une issue de secours là-dedans, quoi. Et de comprendre en même temps comment fonctionnent ces quatre réalités superposées où il n'y a que les personnages qui sont des singularités qui, eux, se comportent différemment, quoi. Le jeu moral, donc c'est un jeu où on a des choix moraux intenses, une scène de vertige logique permet de les magnifier. Donc, dans Pour une poignée d'or, on a un personnage qui est à la recherche d'une pépite d'or, c'est très très important pour lui. Et il rencontre un fantôme qui lui dit bah, tiens, viens, suis-moi, je vais te montrer où tu peux avoir cette pépite d'or. Et en fait, le fantôme l'amène dans son passé. Un passé où en fait, il a réussi à se défendre d'un père abusif et à le tuer. Et là, il est dans la scène, il s'apprête à refaire le geste, à recommettre son crime. Et là, le fantôme lui dit, je t'arrête. Si tu veux la pépite, tu dois renoncer à tuer ton père. Donc là, choix moral. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que la vengeance ou le gain, qu'est-ce qui pèse le plus pour moi, quoi? Le jeu esthétique, en fait, c'est... vous allez me dire, le vertige logique, c'est quelque chose quand même qui est... C'est quasiment un mouvement artistique dans le jeu de rôle, si on veut, donc ça a un intérêt esthétique en soi. Ça permet aussi de se rattraper, dans le sens où tu as voulu placer une belle scène, mais tu n'as pas eu l'occasion. Eh bien, tu peux encore te rattraper. Donc, dans Ithac ou l'éternel retour, Ulysse est rentré à Ithac, mais il est mort. Et Télémaque prend de la drogue pour le revoir une dernière fois. Et en fait, ils se retrouvent ensemble dans le dernier souvenir heureux qu'ils ont ensemble, où en fait, ils arpentent tous les deux Ithac. L'île est magnifique, donc là, je fais une super description, enfin, je me donne à fond pour que ce soit vraiment beau. Et là, Ulysse lui fait, ouais, c'est un moment génial, quoi, et on n'en aura plus parce que moi, je vais mourir, et puis Ithac sera détruite. Et il propose à Télémaque qu'il y a une solution, en fait, c'est ne te réveille pas, en fait, reste dans ce rêve avec moi pour l'éternité. Donc là, en plus, on revient un peu avec un choix moral derrière, quoi. C'est échapper à la réalité ou vivre dans une vallée de larmes. Le jeu social, c'est un jeu où l'interaction entre joueuses est vraiment importante. Et donc, souvent, dans les scènes de vertige logique, il y a ce qu'on appelle la clause de vaudeville qui est, au départ, ton personnage n'est pas impliqué dans tes scènes, mais en fait, tu peux le faire popper comme tu veux. Après, tu trouves une explication de pourquoi il est là, mais tu t'arranges. Donc, Keyboard Cat, il y a un personnage qui se retrouve emprisonné, il est appelé au parloir, et en fait, il y a un autre joueur qui dit « Bah ouais, mais en fait, le gardien qui t'a mis au placard, bah c'est moi, c'est mon personnage. » Et puis, il explique pourquoi il est là, et puis du coup, ils ont une interaction, alors qu'en fait, c'était censé être foutu, ils étaient plus censés pouvoir se voir. Ces formes de jeu, alors c'est juste un rappel, il y a un dialogue entre ces formes de jeu, hein. C'est-à-dire qu'un truc, il va être esthétique pour quelqu'un, il va être moral pour d'autres, et puis ça va s'enchaîner, en fait. Une scène au départ esthétique va provoquer un choix moral, et ainsi de suite. Donc, maintenant qu'on a bien vu tout ça, on a envie de se dire bah, comment on met en place en fait en jeu toutes ces techniques disparates, comment on fait pour que ça fonctionne. Bah, y a des prérequis, en fait, qui est la crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut que la scène de vertige logique, quelque part, elle soit logique dans l'univers de jeu, dans ce qu'on a amené par ailleurs. Il ne faut pas que ça vienne de nulle part, quoi. Il faut qu'il y ait de l'information, c'est-à-dire que j'explique aux joueuses ce qui est vraiment en train de se passer et quelles sont les possibilités de la joueuse, parce que ça mène au dernier point. Dans ce que j'appelle vertige logique, il y a vraiment une idée d'interaction. Si le personnage ou la joueuse sont juste là pour prendre des pop-corns puis regarder un truc bizarre qui se passe, on sort de ce que j'appelle le vertige logique. Donc il faut de l'interaction, et pour ça, il faut quand même pouvoir au moins expliquer à la joueuse ce qu'elle peut faire. En fait, tu peux enquêter, tu es dans un souvenir, mais si tu veux, tu peux sortir de la pièce et voir ce qu'il y avait de l'autre côté, et ainsi de suite. Alors, toutes ces règles, on peut les transgresser. Si on veut, on peut se dire, bon, on s'en fout, en fait, de ces règles. Alors, on parlait de crédibilité, est-ce qu'on peut faire du vertige logique sans fantastique ou sans SF? Alors oui, notamment en jouant des métaphores. Par exemple, dans les sauveurs dans un scénario qui s'appelle Peste ou Choléra, Je joue un personnage qui est obsédé par la mort de ses parents, et à un moment, à la fin, je raconte qu'il se couche dans son lit, et j'explique qu'il se couche aux côtés de ses deux parents morts. Sauf que les parents ne sont pas là, en fait, en réalité. C'est une métaphore. Alors, comment on met à profit les règles d'un jeu pour faire du vertige logique? Alors, soit, effectivement, vous avez des jeux qui proposent, en fait, des techniques de mise en scène, de mise en jeu. Donc voilà, c'est tout bénef. Mais vous pouvez aussi le faire avec n'importe quel jeu, par exemple, en mettant à profit les mécaniques de résolution. Par exemple, si on a un personnage qui est dans une réalité et un personnage qui est dans une autre, si vous permettez aux deux personnages de faire un jet de dés en opposition l'un contre l'autre, vous créez du vertige logique. Parce que vous créez une interaction entre les mondes. Dans La Moisissure de l'oubli, on a deux personnages. Le gardien du livre, la gardienne du feu. Le gardien du livre est en train de rêver. Et moi, je lui écris, dans ton rêve, il y a la gardienne du feu, mais c'est pas la vraie, c'est une figurante, c'est moi MJ qui la contrôle à ce moment-là, qui est en train de brûler ton livre. Là, le joueur fait, qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon livre? La seule chose que tu peux faire, c'est tu peux pas te réveiller, c'est trop tard, si tu dois éteindre le feu. Mais si tu le fais, ça va éteindre le feu aussi dans la réalité. Mais si ton livre il brûle dans le rêve, il brûlera aussi dans la réalité. Et du coup, j'informe de ça aussi la gardienne du feu, quoi. Et du coup, en fait, les deux personnages, enfin, j'ai en opposition, la gardienne du feu qui est réveillée et le gardien du livre qui sont endormis. Enfin, j'ai en opposition pour savoir qui va gagner, si c'est du livre ou du feu, quoi. Alors, ça peut paraître un peu vertical, je pense que dans mes exemples, c'était quand même souvent les MJ qui étaient à l'initiative d'une scène de vertige logique. On peut se poser la question, du coup, est-ce que c'est le trait de carré du MJ? Déjà, la première réponse, c'est de dire que si les joueuses ne sont pas informées qu'elles peuvent interagir et si elles n'interagissent pas, on a échoué à mettre en place le vertige logique. Donc, de toute façon, il faut quand même qu'il y ait un mouvement de la joueuse. Et si on informe bien, les joueuses vont prendre des initiatives d'interaction que le MJ n'avait pas prévues. Dans Le Phare maudit, on a un personnage en fait, qui touche une pierre qui porte l'empreinte d'un noyé, et ça le plonge dans le passé. Il revit le naufrage, en fait. Il revit un naufrage qui s'est passé avant et qui explique que maintenant il y a une pierre avec l'empreinte du noyé. Et moi, ce que j'explique aux joueurs, je dis, écoute... Tu peux, si tu veux, tu peux te balader dans cette île du passé pour mener l'enquête, t'essayer de voir des trucs, et du coup, il dit, tiens, je vais aller fouiller l'épave, je sais plus ce qu'il trouve dedans, je crois qu'il trouve le livre de bord du capitaine. Et puis, il me dit, je fais le tour de l'île, je n'avais pas prévu. Je dis, tu fais le tour de l'île, tu vois en fait des fantômes des noyés qui s'approchent de l'île comme ça. Il fait, je les appelle pour qu'ils viennent. Il pense, le joueur pense que c'est une bonne idée. Mais avant, moi, j'ai expliqué que les autres personnages... Parce qu'en fait, on a un personnage qui est en transe, il a touché une pierre, et il vit une espèce de trip, mais il raconte aux autres ce qui se passe. Les autres personnages sont dans la réalité, et donc il leur explique ce qu'il est en train de faire, et il y en a un qui fait « Non, mais je veux pas que t'attires les fantômes des noyés, c'est trop une mauvaise idée. » Du coup, il le réveille brutalement pour qu'il n'y arrive pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment des idées d'interaction que les joueurs ont eues, quoi. On peut faire... Un joueur peut être à l'initiative d'une scène de vertige logique. Dans Peste, mon personnage qui se couche avec les morts, ça c'est typiquement une initiative de joueur. Et enfin, on peut faire du jeu sans MJ avec du vertige logique, où là, généralement, en fait, on se met d'accord au début de la partie pour se dire, on va se mettre telle contrainte, on va jouer comme ça avec le temps, avec l'espace et tout. Et du coup, chacun, il va de son petit grain de sel, quoi. Donc du coup, dernière chose, c'est on va parler de contrat social. Le contrat social, c'est la façon dont les joueuses se mettent d'accord au début de la partie sur divers paramètres, et notamment on va paramétrer le vertige logique. Donc justement, là dans Venise, Compostelle au Nord, c'est une partie où en fait on a joué sans MJ, mais au début on s'est mis d'accord, on dit on va utiliser telle scène de vertige logique, telle scène, telle scène, telle scène. Et donc on s'est bien donné les règles dès le départ, c'était très clair. Mais vous pouvez le faire d'autres façons. Vous pouvez juste dire, attention, il y aura du vertige logique. T'as juste averti qu'il y aura des trucs bizarres, et puis après tu les expliqueras au fur et à mesure. Ou tu peux jouer en surprise. C'est-à-dire, finalement, c'est au fur et à mesure, en fait, quand ça te vient, tu lances une scène de vertige logique, là, t'expliques à ce moment-là, quoi. Après, c'est aussi à chacun de doser, de voir le est-ce qu'il faut toujours expliquer ou est-ce qu'on peut aussi jouer en lâcher prise. On peut aussi se dire, si on empile vraiment beaucoup de scènes de vertige logique, se dire à un moment, de toute façon, il y a forcément un moment où ça va être contradictoire, paradoxaux, et juste, c'est pas grave. On lâche prise d'essayer de tout comprendre. On peut dire, par exemple, on peut rajouter même des contraintes pour patcher ça en disant, en fait, on arrête d'essayer de faire quelque chose qui soit cohérent, on s'en fout de la cohérence, on parle d'un truc complètement onirique, c'est une façon de gérer la chose, quoi. Donc, pour finir, comment on crée un vertige logique fort? J'aime bien qu'on y aille par étapes, c'est-à-dire qu'on va, on va commencer avec une scène, après on va faire deux scènes, trois scènes, puis après on va faire imbriquer une technique de vertige logique dans une autre, quoi. Un monde parallèle dans un souvenir, ainsi de suite. Et puis après on va en imbriquer vraiment plusieurs, on va faire des cascades de techniques. Donc, par exemple, dans le calendrier lagunaire, on a un personnage qui... Il commence à voyager dans ce souvenir-là, il peut explorer un monde parallèle. Dans le monde parallèle, il arrive dans une réalité onirique, il descend dedans, il se retrouve dans le passé, et ainsi de suite. Et en fait, on n'arrête pas de dégringoler d'une réalité vers l'autre. Alors, je serais incomplet si je ne mentionnais pas en fait toute la super équipe qui m'a aidé à faire l'article sur le vertige logique. Et puis, je vous remercie, j'espère que vous n'avez pas été trop décoiffé. Et puis, donc, on peut passer aux petites diverses questions pratiques. Oh, je fais que ça. J'ai à peine dépassé, en fait.
Est-ce que vous pourriez revenir au conférencier d'origine?
Ah oui, je vais juste récupérer ma chemise d'origine.
Attention, les dés.
Et puis, les voudrais éclipser, s'échappent.
Ouais, les dés s'échappent, c'est partout.
Je t'écoute. Hein.
Je me demande à quel point, tu vas aborder vers la fin, utiliser le vertige logique n'est pas parfois dangereux pour le plaisir des joueurs. C'est pas un peu un kiff de MJ, on se dit « Ah ouais, trop bien, et puis là, je change tout. » Ça m'est arrivé une fois dans une partie, c'était extrêmement frustrant. Je suis plutôt un joueur de jeu de plateau, donc j'aime bien avoir un certain contrôle, etc. Et là, j'ai eu la même impression que si quelqu'un, après 2 heures d'installation d'un jeu de plateau, 4 heures, prenait le plateau, puis il disait « Ouhou, on réinstalle tout ». Donc, en vidant totalement, c'était...
T'as des jeux de plateau en vertige logique, je citerais Dungeon Twister, par exemple.
Par exemple, oui, on est d'accord.
Bah, donc, du là, coup, on est sur une idée de confiance. C'est-à-dire que forcément, si en tant que MJ, t'amènes, ou même en tant que joueuse, hein, t'amènes un truc complètement mindfuck, au bout de 2 heures sans me prévenir, tu prends un risque, effectivement, avec tes joueuses.
Ouais.
Donc ça, c'est toujours le difficile équilibre à se poser de comment je dose entre je vais vous surprendre pour le fun, je pensais la personne, elle pense pas à mal, elle veut te surprendre, te déstabiliser, justement pour provoquer une émotion de ta part, Et au contraire, je vais informer, échanger, négocier, voire même des fois... Moi, je sais, par exemple, j'ai un joueur, j'ai fait pas mal de techniques de vertige logique dans la face, au bout d'un moment, il m'a dit « Non, mais en fait, moi, je n'aime pas. » Du coup, bah, avec ce joueur-là, je sais que je vais y mettre un peu la pédale douce, quoi. Donc ça, c'est de la négociation. On parle de contrat social. C'est vrai que... Puis ça dépend de la masse d'effets. C'est vrai que si tu as prévu des grosses cascades d'effets à la fin, il faut quand même un petit peu en discuter en amont, quoi.
Est-ce que tu as toujours une logique derrière tes vertiges logiques? Est-ce que ça semble bizarre à première abord, mais tu as toujours une logique derrière laquelle ça se rattrape derrière le bizarre, parce que des fois c'est bizarre et c'est sans rien.
Bah, des fois il y a des choses qui sont très concrètes en fait. Finalement, c'est pour ça que je vous ai fait des pitreries en fait, pour montrer que en fait, c'était des choses qu'on pouvait visualiser et qu'on en fait, une fois que tu t'es dit juste la réalité c'est un espace. Bah, en fait, finalement, c'est pas tellement plus déconnant que du jeu classique. Il y a des fois où, effectivement, tu vas être beaucoup plus relâché là-dessus et tu vas dire les choses comme elles te viennent, en une espèce d'état de transe. Ça, c'est possible aussi. Ou des fois, tu vas un peu en mode YOLO, tu balances une idée, tu penses un concept, et puis c'est plus tard, en cours de route, tu vas essayer de retricoter une cohérence. Bon, des fois, ça m'arrive effectivement de dire... y a un personnage qui raconte... Généralement, quand quelqu'un raconte un truc du passé, moi, je me sens obligé de dire, bah attends, c'est obligé qu'on le joue. Maintenant, je vois même pas comment faire autrement, quoi. Mais après, derrière, je sais pas encore quel gameplay se cache dans cette scène de souvenir, quoi. Quelle interactivité on va y mettre. Et il faut qu'on trempe le pied dedans et puis qu'on voit ensemble. Ça me fait revenir sur ta réflexion. C'est vraiment important, mais ça nécessite du dialogue, tout ça. C'est vraiment important qu'au bout d'un moment, la joueuse, elle se sente aussi que c'est un truc qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que la joueuse, faut vraiment qu'elle se dise « Ouais, en fait, moi aussi, je peux jouer avec ça, quoi. » Donc le truc de... par exemple, si je te dis on joue un flashback, faut vraiment pas te borner à jouer ce qui a été scripté par ton passé, puis se dire putain, mais en fait c'est un flashback où on est en train de discuter, mais si je veux je peux aller voir ce qui se passait dans la pièce à côté où j'ai jamais su ce qui s'était passé là-bas, quoi, où je peux en profiter pour aller dire à machine que je l'aime alors que dans le vrai passé j'ai jamais osé le faire, quoi. Faut vraiment se dire putain, c'est un jouet, c'est un espace de jeu que je peux investir. Et d'un côté, je peux attendre que le MJ me donne mes espaces de liberté. Dit, ouais, tu peux actionner telle chose, tu peux cliquer sur telle zone. Et puis, il y a des moments où tu dis, non, en fait, c'est un monde virtuel, donc tout est cliquable. Donc, c'est à moi d'y aller. Et puis, ouais, j'appuie sur tous les boutons, et puis après, on voit ce que ça donne, quoi. Je vais sécher, hein.
Ah, l'article, juste à la fin. Ouais. Tu as écrit un article en rapport à ça ?
Oui, tout à fait, ouais. Donc ça reprend tout le déroulé, sauf que ça développe un peu plus, notamment en fait quasiment tous les exemples que je vous ai donnés. En fait, il y avait des scènes imbriquées. Là, forcément, pour gagner du temps, puis pour la compréhension, je vous fais pas tous les... je vais au focus de vraiment ce qu'est la technique dans sa base, quoi. Le mieux, c'est de surveiller le site de Vivien, un compte Histoire à Vivre. Et il faut qu'on le finalise, parce que j'ai pas encore fait toutes les corrections. Il faut qu'on le mette en place. Donc, on va se donner, je pense, on se donne un mois pour le sortir, ça me paraît correct. Après, c'est sûr que tu vas voir l'article qui va faire 50 000 signes, tu vas dire on peut pas. Ça risque d'être un pavé. Là, je suis à 35 000 signes, je pense qu'on frisera les 50 000 au final, quoi.
J'aimerais bien savoir comment tu... qu'est-ce qui t'a poussé à explorer ce vertige logique et comment t'as fait pour en trouver autant d'instances, autant d'exemples ?
Parce que je pense que c'est un truc que j'ai fait depuis très longtemps. Par exemple, un truc qui m'avait mindfucké, c'était un vieux scénario d'HeroQuest où en fait, dans HeroQuest, c'est un donjon, l'espace normal. Tu vois, avec des pièces qui communiquent entre elles, des couloirs, tout ça, machin, rien de plus classique. Et en fait, il y a une quête où t'as que des pièces, et y a des portes, mais elles ne communiquent pas avec les couloirs. T'es dans la pièce là, et si tu passes la porte, tu te retrouves dans la pièce qui est à l'autre bout du donjon. Et en fait, que des téléports, quoi. Et c'est un truc qui m'avait fait vachement triper. Je sais que j'en ai fait, quand j'ai joué à l'Appel de Cthulhu avec les Contrées du Rêve, on avait fait des trucs ultra mindfuck comme ça. Et ça, c'était venu des joueuses, en fait. Quand je leur ai dit, pouvait voyager dans ce monde parallèle, Contrées du Rêve et tout. Et je vous préviens, le temps, il est un peu élastique. Le temps, il se déroule pas de la même façon. En fait, le temps, il n'y a pas de... dans les Contrées du Rêve, plus en fait, le temps n'existe pas, quoi. C'est exactement ça, quoi. Ça veut dire que tu peux communiquer avec quelqu'un qui est mort depuis 100 ans. Et tu peux communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la galaxie aussi. Et en fait, les joueurs ont fait « Ah ben c'est génial !» En fait, ça, c'est notre tour de contrôle. On peut aller dialoguer avec tout le monde, faire nos plans, tout ça. Et donc, elles s'en servaient comme QG, en fait. C'est Contrées du Rêve. Et puis, comme plateforme de communication. En plus, on était sur des campagnes, il y avait vraiment des personnages qui étaient, des fois, séparés d'une galaxie, quoi. Et donc, ils en profitaient pour... Et donc, c'est, grosso modo, c'est, on va dire, 15 ans de pratique. J'ai fait une campagne de DK System. Où en fait, il y avait un méchant qui avait une capacité de... Quand il touchait un objet, il pouvait se téléporter dans la mémoire de l'objet. C'est-à-dire dans l'événement le plus marquant dont l'objet avait été témoin. Et donc, on avait fait toutes ces scènes de baston. Mais tu sais, DK, c'est très DDS-esque, hein, avec des dés, des caracs, des compétences, machin. Toute une scène de baston, mais mouvante, où où en fait la baston se déplaçait d'un souvenir à l'autre, comme ça. Et donc, puis après, il y a toutes les inspirations, parce que j'ai cité 6 jeux, mais il y en a plein, plein, plein. Et puis en fait, une fois que tu as l'envie, je pense une fois que tu as l'envie d'explorer une façon de jouer, quelle qu'elle soit, tu dis ça, c'est mon kiff, et du coup, je vais expérimenter, tester des trucs, je vais le faire de façon intensive. Je vous parle, là, c'est 2 ans, 150 parties à peu près, où à chaque fois, je me suis dit, là, je fais du vertige logique. Faites ça avec n'importe quelle façon de jouer. Du moment où vous faites de façon intensive, il y a forcément des trucs qui vont émerger, quoi. Et après, au bout d'un moment, tu as une façon de penser qui... C'est que du coup, tu formates ton cerveau à penser vertige logique. On va voir tout de suite les possibilités vertigineuses qui s'offrent, quoi. Tu penses plus en 3 dimensions, tu penses en 15 dimensions, quoi.
Ce que tu m'avais dit, on avait parlé un peu, et tu m'avais parlé de ta propension à te lancer des défis aussi pour chacune des parties.
Ouais, c'est ça. Généralement, j'arrive à la partie, là, je vais tester tel scène, quoi. Effectivement. Et du coup, les cascades, c'est qu'en fait, les anciennes scènes que je maîtrise déjà, je les fais quand même, je les emboîte et tout. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on a des cascades de techniques, quoi. Une fois que tu maîtrises 4-5 techniques, tu as ton répertoire, et du coup, tu peux les balancer d'instinct. Là, tu peux partir loin, quoi.
Je vous propose de rester là pour ce soir. On va déplacer la suite de la conversation au bar, si ça vous va. Ça sera plus confortable. Après avoir remercié encore une fois nos 3 intervenants.
Merci pour l'accueil. Hein.